L'important, je pense, c'est d'apprendre à se connaître vraiment, connaître ce qu'on aime, et puis aussi se connaître physiquement, ce qu'on est capable d'endurer ou pas. Et ça, ça permet vraiment de bien délimiter ce qu'on veut et ce qu'on peut faire aussi.
Bienvenue dans le podcast Altitude, un podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
Et je pense que, oui, se connaître, c'est la base de tout. Et puis aussi, ça permet d'apprendre à connaître les autres. Et on vit de super choses quand on apprend à se connaître et à connaître les autres, même socialement.
Je m'appelle Louis, je suis étudiant en master de journalisme à l'Université catholique de Lille. Et pour ce 7e épisode, je suis ravi d'accueillir Audrey, qui est une ancienne étudiante de l'université. Titulaire du master écologie opérationnelle de la faculté de gestion économique et des sciences de l'université, elle est aujourd'hui avec nous pour ce nouvel épisode d'Altitude. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que ça te fait de revenir à l'Université catholique de Lille après 2-3 ans ?
Ça fait un petit peu bizarre, c'est sûr. Et puis, on est bien toujours dans ces beaux bâtiments.
Ça te fait plaisir de revenir. Ouais, une petite note de nostalgie peut-être ?
Oui, c'est sûr qu'il y a des bons souvenirs.
T'en aurais un peut-être à me partager ?
Bah, je pense que c'est les déjeuners avec les copains du master, le midi. Ça, c'était des bons moments, ouais.
Bon, bah apparemment ça a fonctionné puisque maintenant tu travailles et tu es venu pour nous partager ton expérience dans ce nouvel épisode d'Altitude. Alors avant le début de tes études supérieures, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou du moins tu avais une idée du domaine dans lequel tu voulais évoluer et où travailler ?
Bah, moi j'ai toujours voulu travailler dans la nature. Ce que je voulais c'était être à peu près dehors et à l'intérieur en même temps. J'aimais bien la nature, ça c'est certain, notamment grâce au scoutisme, grâce à mes parents avec qui j'ai passé beaucoup de temps dehors, puisque mes parents sont fils et filles d'agriculteurs. Donc forcément, on avait beaucoup de temps dehors parce qu'ils aimaient bien aussi faire du foin, avoir des moutons. Ils ont toujours des moutons d'ailleurs. Donc on a beaucoup fait de choses dehors ensemble. Et puis
Ça t'a donné le goût un peu.
Ouais, c'est ça. Et en même temps, faire tout le temps tout dehors, il y a des saisons où c'est moins facile. Donc, c'est vrai que
être. Par exemple
L'hiver, c'est quand même. Il fait froid, quoi. Surtout dans le nord.
Ouais, et finalement, c'est de là que te vient cette passion que tu portes pour la nature et l'environnement. Qu'est-ce qui t'a finalement motivé ? Quel a été le déclic qui t'a dit tiens, je vais me lancer dans ces études-là ?
Le déclic. Alors le premier, c'était mon stage de découverte en seconde que j'ai effectué avec un garde forestier. Et donc ce garde forestier était passionné par les plantes, enfin il est toujours passionné par les plantes d'ailleurs. Et il m'a vraiment transmis pendant ce stage cette passion. Moi, je me suis rendu compte que je pouvais pas être garde forestière. Enfin, c'était beaucoup trop physique pour moi. Mais par contre, les plantes, j'avais envie. Et puis, du coup, je me suis dit, tiens, je vais peut-être être biologiste végétale parce que je connaissais pas du tout le métier de botaniste. C'est un métier qu'on connaît pas.
Quand tu fais des forums, par exemple, d'étudiants ou quoi, il n'y a pas cette plaquette avec écrit, vous pouvez devenir botaniste.
Non, c'est ça.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Tu l'as découvert comment, finalement, ce métier de botaniste comment t'es arrivé à cette conclusion de te dire attends ça existe et ben je vais le faire.
En fait c'était dans un forum mais pour arriver dans des études supérieures je sais plus exactement le nom du forum j'étais en train d'expliquer que je faisais des études de biologie végétale et donc après j'expliquais pourquoi je faisais ces études là et on m'a dit ah mais en fait, si tu veux faire ça et être à l'extérieur, à l'intérieur en même temps, le métier que tu cherches, c'est pas biologiste végétal, c'est botaniste. Et donc depuis, ça m'est resté. Et puis après, j'ai pris contact avec des botanistes du Conservatoire national de Bayeul. Et puis ils m'ont dirigé vers les études qu'il fallait faire, donc des études d'écologie.
Tout simplement.
Oui.
Et quelle était la position de tes parents sur tes études à l'époque ? Ou plutôt, est-ce que ça correspondait à ce que ton entourage imaginait pour toi ?
Bah, pas vraiment, parce que déjà, partir dans des études d'écologie, il n'y a pas vraiment de filières qui sont prédestinées au tout départ. Enfin, on ne peut pas dire, je pars après le bac, je pars faire de l'écologie, c'est je pars faire de la biologie et après, on ne sait pas trop. En fait, c'est une spécialité qui se trouve souvent en L3, en licence 3. Donc, c'est pas forcément un truc où on voit tout de suite le bout, quoi. Donc, moi, mes parents, Ils préféraient que je fasse quelque chose où on sait que quand on sort, bah, on a quelque chose. Par exemple, une école d'ingénieur, là, on est sûr, quoi. Et donc, comme je savais ce que je voulais, forcément, j'ai un peu tenu bon. En plus, quand on dit qu'on va faire de l'écologie, la première chose à laquelle on pense, c'est le parti politique écologie les Verts. Et du coup, on fait souvent la confusion entre faire de l'écologie politique et faire de l'écologie scientifique, alors que nous, ce qu'on fait, c'est de l'écologie scientifique et pas politique du tout.
Avant d'arriver à l'Université catholique de Lille, tu es passé par l'Université d'Artois, donc en biochimie, en première et deuxième année de licence. Et puis, à l'Université de Lille, pour ta troisième année de licence, donc en biologie générale. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de tes études, tu t'es spécialisé de plus en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu as fait ces choix ?
La biochimie, ça a été parce que je voulais faire de la biologie végétale, donc partir en biochimie, c'était logique. Ensuite, quand je me suis rendu compte que en biochimie, j'arriverais pas à être botaniste, je me suis décidée à faire de l'écologie, à faire des études d'écologie. Mais c'est vrai que c'était pas la décision la plus simple parce que je savais que dans l'esprit de tous ceux qui m'entourent, ça serait de l'écologie. Politique et pas scientifique. Donc ça a été une décision qu'il a fallu mûrir. Et puis après, quand on est sûr de ce qu'on veut, et en fait, c'est obligé, quoi. Et puis de toute façon, mes parents ont respecté mes choix et ça, là-dessus, je leur suis reconnaissante parce que même si c'est des choix qu'ils comprenaient pas forcément au tout départ, maintenant ils savent que je me plais dans ce que je fais et ils sont heureux pour moi.
Il y a sûrement dû y avoir plein de questions sur ce que tu faisais.
Des questions, j'en ai toujours. Enfin, même pas forcément de la famille et de l'entourage, mais dès que je dis que je suis botaniste, oulala, qu'est-ce que c'est que ça ?
Un exemple type, je t'en pose, tu vois.
Voilà. La famille, bien sûr, a dû se familiariser avec le métier et avec le domaine de l'écologie. Et aussi se rendre compte que c'est vraiment une passion de s'occuper de la nature, mais... Enfin, comme un métier, en fait, que ça soit un métier et pas juste une passion. Il a fallu répondre aux questions, mais avec le temps, c'est vrai qu'on finit par bien répondre et les gens comprennent.
Et finalement, tu es arrivé donc en Master 1 d'écologie opérationnelle à la FGVS. C'était quoi tes matières préférées ? Pure curiosité, hein. Comme je ne connais pas, je veux me renseigner aussi.
Grande surprise, la botanique, la phytosociologie. Qui est la science de l'agencement des plantes ensemble en société, en fait. La phytosociologie, phyto, les plantes, et sociologie, la science
exemple,
des sociétés.
Donc, par exemple, planter différentes plantes au même endroit, ils vont vivre dans un même environnement, comment ils interagissent ?
C'est plutôt observer les plantes qui sont ensemble dans un même endroit et se dire, elles sont ensemble parce que, par exemple, les pelouses calcaires, en fait, c'est des pelouses sur lesquelles on va retrouver une grande diversité de plantes, d'espèces. Et surtout, c'est un endroit où on ne va pas trouver des espèces de milieux très acides parce que le calcaire n'est pas acide. Et donc, en fait, ces plantes-là, on va les retrouver toujours ensemble ou pas forcément toujours celle-là avec celle-là, mais en tout cas, elles font une société sur ce type de milieu.
Et d'accord, donc en fait, c'est comme les humains, mais version plante.
C'est même comme le monde animal en général, mais version plante, parce que l'important, c'est surtout de savoir quelle plante va avec laquelle, et aussi qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, en fait, pourquoi elles sont toutes ensemble là. C'est parce que, en fait, le climat est bon pour elles, parce que tous les paramètres sont réunis pour qu'elles soient à cet endroit-là et qu'elles soient bien là.
Ouais, donc ça veut dire que si tu mets un sapin du nord du Canada avec un olivier qui pousse généralement, en Espagne ou autre, forcément, il y a un petit peu de...
Il y a de la concurrence.
Ouais, il y a de la concurrence.
L'olivier, il va être content s'il est au soleil, et inversement, si c'est le sapin qui est au Canada.
Tout simplement. Est-ce qu'il y a un moment pendant tes études où tu t'es dit, est-ce que c'est vraiment cette voie que je veux suivre ? Est-ce que tu as douté entre le début de ta licence 1 jusqu'au Master 2 ? Et même après, pourquoi pas, hein ?
Alors, j'ai pas douté de vouloir être botaniste, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se demande si on est parti au bon endroit pour arriver là où on veut aller. Parce que j'ai commencé par de la biochimie et finalement, avec le recul, forcément, la biochimie, c'était pas la voie à prendre pour devenir botaniste, puisqu'il fallait faire de l'écologie et donc plutôt de la biologie de la SVT, en fait.
Et donc ça, tu t'en es rendu compte ? Au cours de tes études, tu t'es dit « Ah, petit problème,
oui,
on va peut-être
ça.
Changer de voie. »
C'est ça. en milieu de L2 à peu près, je m'en suis rendu compte. Donc je me suis dit, bon bah allez, il faut quand même changer de voie, je vais aller dans une licence d'écologie. Donc me voilà arrivée à Lille 1 au départ. Et puis après ça, je me suis rendu compte que c'est pas forcément simple de reprendre une L3 sans avoir suivi la L1 et la L2 de la même spécialité, on va dire. Du coup, j'ai un peu eu du mal en L3 à rattraper mon niveau, on va dire. Et du coup, ça a été vraiment le moment où j'ai un peu douté de la manière dont je m'y suis prise dans mes études. En plus, c'est vraiment pas grave parce que j'aime bien aller vite. Donc, j'ai voulu passer directement à L3, mais en fait, il y avait vraiment moyen de faire la L2 à nouveau dans le domaine de l'écologie. En fait, c'est juste moi qui ai décidé de passer directement à L3 et je m'en suis sortie, alors que, enfin, voilà, on peut aussi faire la L2 et on s'en sort aussi. On peut soit perdre une année, entre guillemets, et même, moi, je trouve pas que c'est vraiment une année de perdu si vraiment après on fait ce qu'on aime. Ou soit se dire, allez, moi je veux aller directement au but, mais du coup, peut-être on se plante, mais c'est pas grave, on redouble, c'est pas un problème. Du moins qu'on arrive à, après, faire ce qu'on veut.
Ouais, donc finalement, on a le droit de se planter.
Oui.
C'est ce qu'il faut dire.
C'est ça.
T'as fait des stages durant ton cursus, tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Et j'aimerais que tu reviennes sur celui que tu nous as parlé de juste avant, là, celui de garde forestier, ça m'intrigue beaucoup. C'était quoi tes missions pendant tes stages? Par exemple, garde forestier, qu'est-ce que tu as fait exactement? Donc, t'as suivi un garde forestier pendant combien de temps à peu près?
J'ai suivi un garde forestier pendant une semaine. Enfin, une semaine, du coup, ouvrée. Du coup, j'ai coupé des arbres à ce moment-là.
Ça t'a fait mal?
Non, moi, ça m'a pas fait mal. Disons que c'est peut-être les arbres qui ont eu un peu mal, mais moi, disons que j'ai appris à les connaître en même temps que de les couper, donc c'est ce qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon, ce stage-là, c'était vraiment plus de l'échange avec mon maître de stage qui m'a montré un peu ce que c'était que l'univers des plantes, en fait. Parce qu'en plus, la forêt, c'est vraiment le moment où on apprend plein de choses sur les plantes. C'est là leur optimum de vie, on va dire. Enfin, ça dépend lesquelles aussi, hein, mais en tout cas, c'est quand même l'endroit le plus propice pour comprendre les plantes. Et puis après, je fais plus des stages spécialisés dans mon domaine parce que garde forestier, c'était pas mon domaine. Moi, ce que j'ai fait après, c'est un stage en L3, j'ai fait un stage pour déterminer les plantes qui se trouvaient dans un parc. Voilà, c'était très, très instructif parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses au départ. Et en Master 1, c'était plus un truc orienté recherche, où je devais regarder la colonisation des plantes sur les bancs de la Loire. Donc j'étais à Tours pour faire ce stage.
Donc c'était quoi la colonisation? C'est-à-dire que tu recensais en fait toutes les plantes qui existaient sur le bord de la Loire?
Sur les bancs de la Loire, je recensais les plantes et les graines. Et donc c'était un peu de la détermination de plantules et de graines. Donc voilà, c'était beaucoup plus spécialisé et puis c'était orienté recherche du coup, parce que du coup on essayait...
Plus dans le scientifique quoi.
Ouais, c'était vraiment scientifique. Donc ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses aussi. Et puis après, moi mon rêve c'était de faire un stage aussi au Conservatoire Botanique National de Bailleul.
Alors ça, je connais pas du tout. Qu'est-ce que le Conservatoire Botanique de Bailleul? En tout cas le Conservatoire National de Botanique de Bailleul.
Alors, c'est un conservatoire qui fait partie des conservatoires botaniques nationaux.
On n'y fait pas de musique, hein, rassure-moi.
Non, c'est tout sauf de la musique. Et donc, les conservatoires botaniques nationaux, ça permet de recenser les plantes sur les territoires, les différents territoires. Et moi, donc, ma mission, quand j'étais à Bailleul, Bailleul s'occupe du territoire nord, Pas-de-Calais, ouest, enfin, tout ce qui est Hauts-de-France, et puis le haut de la Normandie, la Haute-Normandie.
D'accord, ouais, donc Hauts-de-France et Haute-Normandie, ouais.
Voilà. Ma mission, c'était de pouvoir regarder si les prairies étaient humides ou pas au PNR Scarpesco. Alors, le PNR, c'est Parc Naturel Régional. Parc Naturel Régional Scarpesco, je devais regarder si les prairies étaient humides en fonction d'une cartographie qui est en cours de réalisation au niveau national.
Donc finalement, très étroitement lié avec le climat.
Lié avec l'humidité du sol, le climat... Pas vraiment, enfin, c'est plus les conditions climatiques à un endroit donné.
D'accord, qui vont influer sur du coup cette fameuse terre dont tu parles, qui va être humide ou non.
Oui.
D'accord. Et sur tes autres stages, t'en as fait du coup en Master 1, Master 2 ?
Donc ça, c'était mon Master 2, le stage au Conservatoire Botanique National.
Ok, très bien. Donc en tout, on a fait 3, L3, M1 et M2.
C'est ça.
Et est-ce que tu pourrais détailler, par exemple, je peux donner un exemple concret, quand tu étais sur les bancs de la Loire, justement, qu'est-ce que tu faisais le matin ? Tu te levais et c'était quoi le travail sur la journée ?
Le travail qu'on faisait sur les bancs de la Loire, donc on allait sur un site. Un site, c'est un endroit de la Loire sur les bancs. Donc les bancs de la Loire, c'est vraiment les bancs de sable qui bordent toute la Loire. Ça peut être aussi des îlots de sable sur la Loire. Et donc on allait sur ces bancs de sable à un endroit donné, donc avec le point GPS qu'on avait d'abord enregistré. Et ensuite, on traçait une placette. Et on faisait plusieurs sondages, des sondages de graines qu'on prenait avec nous pour pouvoir les analyser quand on serait en laboratoire. Et parallèlement, on faisait un inventaire de toutes les plantules qu'il y avait dans cette placette. Et donc, le but de ces inventaires, c'était de voir si on a un banc de sable qui a été perturbé, est-ce qu'il reprend plus vite que s'il y en a un autre qui n'a pas été perturbé en termes de végétation. Et aussi, quelles sont les graines qui restent ou qui ne restent pas en fonction des bandes qui sont perturbées ou pas par diverses choses.
Grosse question, donc des plantes, t'en as vu énormément durant toutes tes années de universitaire plus ton travail actuellement. C'est quoi ta plante préférée ? Est-ce que tu peux me dire pourquoi ?
Je ne peux pas dire quelle est ma plante préférée. Parce que déjà, comment est-ce qu'on pourrait demander à un botaniste quelle est sa plante préférée ? C'est compliqué.
Ou alors celle que tu trouves la plus surprenante en termes de capacité, de survie, ce genre de choses.
Ouais, alors ma plante préférée, je pense que c'est peut-être l'aurobanche. Parce que...
À tes souhaits.
L'aurobanche, c'est assez drôle à voir. Enfin, il y a plusieurs types d'aurobanches, mais en tout cas, les aurobanches, elles ne forment pas de feuilles et elles grandissent un peu comme des parasites sur d'autres plantes.
Un peu comme du lierre autour d'un tronc d'arbre.
Sauf que le lierre, il fait des feuilles, alors que les aurobanches, elles font pas de feuilles. Donc c'est-à-dire que si elles font pas de feuilles, elles font pas de chlorophylle. Donc si elles font pas de chlorophylle, elles font pas de photosynthèse. Donc elles ont pas de sucre pour faire leurs fleurs. Et en fait, elles se servent du sucre des autres plantes. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont parasites, pour pouvoir faire de belles fleurs et se reproduire.
Ah d'accord, donc en fait, elles piquent aux autres, donc c'est un peu la voleuse, quoi.
C'est des voleuses, et c'est assez marrant, je trouve.
D'accord, et du coup, en fait, ça ressemble juste à une tige, donc une espèce de... un peu comme une liane, ou alors c'est plus rigide
Non, souvent, c'est plutôt à terre, les aurobanches, c'est vraiment assez bas, je dirais une vingtaine ou trentaine de centimètres de hauteur, et puis en fait, c'est une tige plutôt blanche, avec des fleurs qui peuvent être blanches, beiges, ou alors un peu rosées aussi.
C'est marrant. Alors aujourd'hui, tu travailles, tu es chargé d'études en écologie pour le bureau d'études Verdi. Tu es spécialisé, comme tu l'as dit, en botanique et en phytosociologie. Mais quelles sont tes missions ? Qu'est-ce que tu es amené à faire tous les jours ?
En fait, on a beaucoup de missions différentes, surtout en botanique, parce que en fait, la botanique, c'est aussi botaniste phytosociologue. Donc on s'occupe de déterminer les habitats, donc ça c'est la phytosociologie, et les plantes. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le terrain, on va faire un relevé des plantes et des habitats, et des habitats qui sont déterminants de zones humides, ou des plantes qui sont déterminantes de zones humides. Ensuite, on rentre...
Donc ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire que tu vas sur le terrain, vous déterminez un habitat en particulier. Tu pourrais donner un exemple un peu ?
En fait, par exemple, sur la côte, on va voir... dans les dunes, on a donc les fourrés dunaires avec de l'argousier. Après, on a la dune mobile embryonnaire avec plein d'oyas. Et en fait, tous ces habitats s'enchevêtrent ensemble. Et nous, notre but, c'est de délimiter à peu près les habitats pour dire, bon, bah voilà, la dune embryonnaire, elle s'arrête là. La dune blanche, elle est là. Ensuite, il y a une dune grise et après encore
donc,
une
donc, en fait, vous faites un peu une sorte de cartographie.
Voilà, c'est une cartographie des habitats. D'ailleurs, on l'appelle comme ça, la cartographie des habitats.
Donc, vous cartographiez tout ça. Et quand tu parlais de zone humide, si tu peux être plus précise.
Bah, par exemple, dans les dunes, il y a aussi des endroits où il y a des pannes dunaires. Et donc là, c'est des endroits où la nappe phréatique remonte. Et donc, il y a des c'est beaucoup plus humide et la végétation se fait ressentir comme plus humide. C'est-à-dire qu'il y a des plantes typiques des zones humides, beaucoup plus grandes. Elles gaspillent toute leur eau parce qu'elles en ont à proximité. Donc elles sont grandes, elles forment des énormes feuilles, des belles fleurs pour pouvoir... Donc en fait,
elles se gavent, quoi.
Oui, c'est ça. Et on voit du coup que c'est des espèces déterminantes de zones humides grâce à ça, grâce à leur forme, leur morphologie, et aussi parce que en fait, on les trouve pas vraiment sur des milieux secs parce qu'elles ont pas assez d'eau pour.
Et donc quand vous voyez ça, vous vous dites, ok, ça c'est une zone humide.
C'est ça. Et on détermine. Donc ça, c'est aussi des habitats qui sont différents des habitats secs. Et donc c'est aussi, on peut faire aussi par rapport aux habitats en disant, cet habitat, il est un déterminant de zone humide. Donc voilà.
Donc grosse nappe phréatique, c'est-à-dire une énorme quantité d'eau sous le sol, d'eau douce, qui va permettre en fait à des plantes de beaucoup plus grandir, d'être plus grandes, avec des plus grandes feuilles, des plus grandes fleurs, mais sur uniquement la zone où il y a cette fameuse nappe phréatique.
Alors ça peut déborder un peu, bien sûr. En fait, c'est pas forcément que des grandes feuilles, hein. Il y a aussi des plantes qu'on trouve que dans des endroits super humides. Par exemple, il y a des orchidées qu'on retrouve que sur des orchidées sauvages, qu'on retrouve que sur les zones humides. Et du coup, ça permet de voir. Elles ont des belles fleurs, en fait. Elles sont pas forcément grandes, mais elles ont des belles fleurs.
Ce qui fait que du coup, tu es amené à travailler en extérieur très souvent.
Oui, on est souvent sur le terrain. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi une grosse partie bureau. Aussi.
Ah, et alors ça se passe comment au bureau ?
On va faire nos dossiers réglementaires souvent, ou dossiers faune flore. Enfin, en fait, le but, c'est il y a un projet à un endroit donné, là où il y avait tous ces habitats, ces espèces. On a dit, tel habitat existe à cet endroit, est-ce qu'il est protégé, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il est rare, voir un peu à quel point il peut être important de le garder à cet endroit-là.
Donc vous recensez en fait les différents habitats que vous avez identifiés sur le terrain.
Voilà, et ainsi que les espèces, bien sûr, et aussi les zones humides, parce qu'aujourd'hui on n'a plus beaucoup de zones humides, donc il faut faire attention aux...
Il faut les préserver.
Il faut les préserver. Et du coup, ça permet après de faire un dossier qui permettra de voir si le projet d'aménagement du territoire qui est prévu à cet endroit doit être fait dans les conditions dans lesquelles il a été imaginé ou s'il doit être adapté pour éviter d'impacter tel habitat qu'il est important de garder et ou telle espèce.
Quand tu dis à projet d'aménagement du territoire, qu'est-ce que c'est concrètement ? Ça peut être quoi ? Ça peut être des travaux pour une route ? Ça peut être des constructions d'un lotissement ?
Ça peut être tout. Ça peut être des créations de routes. Ça peut être des créations de lotissements, des créations de zones commerciales. Mais ça peut être aussi juste un réaménagement de la nature pour justement faire qu'il y ait plus de nature. On va aussi regarder si à la base, il n'y a pas un habitat déjà qui est très intéressant. Et donc, par exemple...
S'il n'y a pas une contre-indication à cette création d'un autre habitat.
C'est ça.
Et exercice pratique. Il y a un aménagement du territoire sur la côte d'Opale qui menace certaines espèces, faune et flore confondues. Comment vous vous y prenez pour les protéger ? Quelles sont les étapes ? On va dire que là, c'est la création d'un lotissement. Voilà, genre d'un nouveau quartier dans une commune, un peu à l'extérieur. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement ?
Alors déjà, le porteur de projet est tenu de demander une étude de faune-flore, donc habitat. Donc là, on fait ce que j'ai dit, on regarde ce qu'il y a à cet endroit. Si on voit qu'il y a des espèces protégées ou des habitats protégés ou patrimoniaux aussi, on va alerter sur le fait que ce projet doit être fait en évitant telles espèces ou tels habitats, en réduisant l'impact sur certaines espèces si on ne peut pas éviter. Et en dernier recours, si on ne peut pas éviter et si on ne peut pas réduire les impacts sur ces espèces et ces habitats, alors on va demander aux porteurs de projet de compenser l'impact qu'il va avoir sur les habitats et les espèces ailleurs. Et s'il y a une demande de compensation, alors il va falloir faire d'autres dossiers, des dossiers de dérogation, des dossiers qui peuvent aussi être des dossiers Natura 2000, afin de dire aux services instructeurs qui peuvent être l'ADREAL, par exemple.
Du coup, c'est la Direction Régionale d'Aménagement et du Logement.
Oui. Et ensuite, ces dossiers, c'est des services instructeurs qui vont les regarder pour dire, OK, le projet, dans ces conditions-là, on accepte. Ou alors non, on ne l'accepte pas parce que les impacts ne sont pas suffisamment évités ou réduits. Et en dernier recours, franchement, là, la compensation ne suffit pas. Donc, vous changez le projet.
D'accord, très bien. Bon, voilà, des explications bien claires sur ce que tu fais au jour le jour. Est-ce que ta vision de l'écologie, des écosystèmes, des plantes, de la nature, est-ce qu'elle a changé entre le moment où tu as commencé ce travail que tu as aujourd'hui et aujourd'hui?
Alors, elle a surtout changé entre le début de mes études et aujourd'hui. Ça, c'est certain, parce qu'au début, j'y connaissais absolument rien en écologie. Pour moi, c'était vraiment un domaine que je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je vois les impacts qui peuvent être réalisés sur les endroits. Après, c'est vrai que quand on finit nos études, on a l'impression qu'on va révolutionner le monde en se disant « Bon, maintenant, j'ai envie de vraiment tout changer, que tout soit nickel, qu'il n'y ait plus d'impact sur la nature. »
Mais c'est une bonne chose, ça, c'est de la motivation.
C'est de la motivation,
c'est bien.
Mais après, c'est vrai qu'il faut aussi se rendre compte qu'en fait, il faut continuer de vivre. On peut pas juste dire bah les aménagements arrêtez-vous et puis on garde toute la nature et puis voilà. Donc en fait il faut apprendre à trouver un peu le juste milieu et aussi pas forcément se dire ouais de toute façon on pourra rien faire sur ce projet. Il faut continuer à se battre quand même pour que bah les projets suivent les recommandations qu'on peut faire, enfin voilà, accompagner les porteurs de projets pour qu'ils puissent aussi se rendre compte de l'importance de la nature et qu'ils puissent être capables de faire leurs projets avec le plus de respect possible pour la nature.
Quel conseil t'as envie de donner à ceux qui vont écouter ce podcast concernant la préservation, parce que finalement tu fais un peu aussi de la préservation de la nature?
Moi, il y a un conseil que je peux donner, mais à tout le monde. Hein. Arrêtez de jeter vos déchets partout. Enfin, c'est un truc que je comprends pas parce que la nature est belle et il ne faut absolument pas jeter des déchets partout. Enfin, voilà. C'est vraiment un gros problème qu'on a partout.
Et quand tu vas sur le terrain, ça se ressent, t'en as beaucoup? Vous
en
voyez beaucoup? Et vous le ramassez du coup, je suppose?
On peut pas forcément se déplacer avec un sac poubelle plus tout notre matériel. Donc en fait, ça nous fait du mal parce qu'on peut pas vraiment le ramasser tout ça parce qu'on n'a pas la capacité de tout porter. Enfin, sinon, on se baladerait avec des sacs poubelles complets en fait. C'est tellement il y en a partout. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose. Si vous pouvez faire attention, ça nous arrangerait pas mal. Et puis sinon, oui, regardez la nature, parce que en fait, surtout regardez les petites fleurs, parce qu'elles sont toutes petites, mais en fait, elles sont tellement belles qu'elles méritent d'être regardées. Et puis écoutez les oiseaux aussi, parce que sinon, ma collègue, elle va pas être contente que je l'ai pas dit.
C'était pour la collègue d'Audrey. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé dans ta carrière, au-delà des déchets, en positif?
Justement, des projets d'aménagement où il va y avoir une compensation. En fait, on se rend compte que à la base, on impacte par exemple une zone humide qui est pas vraiment extraordinaire. Ça peut être une zone humide qui est très nitrophile, donc plein d'azote, vraiment assez polluée en fait. Et on demande à compenser cette zone humide pour faire une super zone humide ailleurs. Quand on fait ce genre de choses, j'ai l'impression qu'on bonifie encore la nature. Et ça, quand on arrive à faire ça, franchement, ça, je trouve que ça, c'est pas mal.
Et quel a été le plus beau projet que tu as mené depuis le début de ta courte carrière?
En fait, je pense que c'est un projet qu'on a mené l'année dernière sur des zones humides encore. Donc en fait, il y a des projets de création de zones humides aux alentours de la Lys. Et donc en fait, on a trouvé certaines espèces ou certains milieux. Et en fait, on se dit, si le projet voit le jour comme il a été pensé, ces habitats et ces espèces vont être impactés, mais positivement, en fait. Leur habitat va augmenter et ils pourraient être beaucoup mieux qu'avant.
D'accord.
Et donc ça, c'était bien de pouvoir faire des inventaires pour pouvoir dire, là, il y a telle espèce, et donc si on fait le projet de cette manière, peut-être qu'elle va être encore plus prolifique à l'avenir. Et ça, c'était un beau projet.
Ça a bien fonctionné du coup.
On n'a pas encore la finalité, mais en tout cas, ça c'est bien parti.
Et ça met combien de temps entre le début où vous êtes alerté qu'il y a un aménagement, la construction, en tout cas de cet aménagement, quel qu'il soit, et du coup les impacts qu'il y a eu?
En fait, tout dépend de l'importance du projet. Tout dépend de l'importance du projet parce que, par exemple, si on fait une route, ça va impacter tellement de type d'habitat que finalement le projet bouge tout le temps, donc on peut passer une fois 15 ans avant, et puis après le projet a changé, donc on doit repasser une fois tous les 5 ans, donc finalement les projets de route peuvent durer 30, 35 ans, enfin, voire plus, même parfois bien plus que ça, alors qu'il y a certains projets, ça peut être un an, deux ans. Enfin, un an, c'est un peu court, mais en tout cas, deux ans, ça peut être très, très rapide et faisable pour des petits projets de lotissement sur des choses comme des champs.
Et vous êtes combien en tout dans ce bureau d'études ?
Alors, dans notre service d'écologie, on est quatre plus une stagiaire qui vient de la Cato, d'ailleurs, Charlotte.
Big up à toi, Charlotte.
Et du coup, quatre pour l'écologie. On a aussi deux personnes qui s'occupent de l'environnement. Mais ça, c'est uniquement pour la partie nord de France. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de bureaux pour notre société un peu partout en France. On est plus de 300, en fait, sur toute la France à travailler pour Verdi.
Et dans ton plan de carrière, tu continues à travailler là-bas. Est-ce que tu as peut-être une idée d'un changement que tu voudrais faire de peut-être à l'avenir, tu voudrais peut-être partir dans autre chose ?
J'ai beaucoup de projets. Mais après, on verra comment avancent les choses. Y a peut-être un projet aussi de retourner au Conservatoire Botanique National de Bayeul ou même un Conservatoire Botanique National, d'ailleurs, pas forcément Bayeul. Hein. Mais parce que c'était quand même bien de pouvoir travailler pour la conservation des espèces et des habitats. Après, il y a sans doute d'autres projets aussi de voir un peu plus de plantes, même juste des voyages, pas forcément professionnels, mais pour voir un peu plus de plantes dans d'autres pays, quoi.
Quel conseil tu donnerais à un étudiant qui débute son parcours universitaire, tout jeune, tout frais, qui commence ses études? Quel conseil tu pourrais donner pour qu'il se sente bien, pour qu'il réussisse, pour qu'il ne se pose pas trop de questions, ou alors justement qu'il s'en pose?
L'important, je pense, c'est d'apprendre à se connaître vraiment, connaître ce qu'on aime, et puis aussi se connaître physiquement, ce qu'on est capable d'endurer ou pas. Et ça permet vraiment de bien délimiter ce qu'on veut et ce qu'on peut faire aussi. Et je pense que oui, se connaître, c'est la base de tout. Et puis aussi, ça permet d'apprendre à connaître les autres. Et on vit de super choses quand on apprend à se connaître et à connaître les autres, même socialement.
Eh ben, merci beaucoup, Audrey, pour ton témoignage. J'ai vraiment beaucoup appris avec toi sur ce domaine que je ne connaissais pas du tout. Mais c'est ça aussi le principe de ce podcast, c'est de pouvoir découvrir en fait des opportunités de job, de domaines qu'on n'imaginerait pas forcément et qui pourtant existent et qui se permettent de prendre un peu l'air, de prendre de la hauteur sur les différentes possibilités qu'il y a dans le monde. Altitude est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Rendez-vous dans deux semaines pour le 8e épisode d'Altitude avec un nouvel invité. Merci pour vos écoutes et vos retours. Continuez à le faire, ça me permet de m'améliorer et d'évoluer avec et pour vous dans ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager un maximum et à me laisser un petit message sur Apple Podcasts. Altitude est un podcast réalisé grâce à l'Université catholique de Lille. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous !